Vivez comme s'il n'y avait en ce monde que Dieu et vous, afin que votre cœur ne puisse être retenu par nulle chose humaine. L'édit de lumière et d'amour, suivi de degrés de perfection aux éditions Salvator de Jean de la Croix. Et pourtant, je ne rencontre pas aujourd'hui Jean de la Croix, mais c'est pas si sûr. Bonjour Guillaume Basquin.
Bonjour Pascal.
Guillaume, vous vous retrouvez devant ce micro avec l'oralité, alors qu'en fait nous sommes devant l'écriture, devant l'histoire splendide que vous publiez chez Timba Chan. Comment êtes-vous passé de vos lèvres à votre plume ?
Alors, on utilise la plume parce qu'on n'a personne à qui parler la plupart du temps. Donc on passe par la plume et puis un jour, avec un peu de chance, peut-être qu'on peut le lire devant un petit public, ou bien encore mieux, devant un grand public potentiel à la radio. Et j'ai fait une lecture publique de ce livre déjà, et j'ai pu constater que ça se lisait bien, parce que c'est quand même une écriture assez sonore, en fait, et suffisamment révoltée pour être lue. Et j'ai eu plaisir à le faire, en fait.
C'est tellement sonore que juste à l'instant, mon téléphone sonne, et que, pourquoi pas, en vérité, vous vous êtes mis à entendre votre propre voix, que j'écoute dans l'histoire splendide faite de propositions. Alors, c'est des propositions numérotées. Et quand je lis la proposition 210, vous écrivez « Il n'y a plus de forme innovante, tout a déjà été fait ». Il n'y a plus que des pastiches, des allusions subtiles et mobiles, des ressouvenirs en avant, comme dans la poésie classique chinoise qui, rappelons-le, c'est toujours vous qui écrivez, s'est éteinte lorsqu'elle commença à se vouloir totalement originale. Alors, il n'y a plus de forme innovante. Qu'est-ce qui vous a conduit à dépasser ce désespoir qui est celui de Monsieur Test de Paul Valéry ?
Alors, dans ma vie littéraire, c'est mon deuxième livre qui ne soit pas un essai. J'ai écrit trois essais où la forme est moins importante que dans un roman ou un chant ou de la poésie. Et ça faisait 5 ans que j'accumulais des notes sur des carnets, toutes sortes de carnets ou de feuilles de papier, etc. Mais je n'avais pas de forme. Et pour moi, la forme d'un livre est très, très importante. Et tout d'un coup, je me suis souvenu de Carousel de Jacques Henry, c'est un auteur sur qui j'ai écrit un essai. C'est un livre qui m'a bouleversé quand je l'ai lu. Il est très éclaté, c'est-à-dire que chaque chapitre a une typographie différente et une forme de ponctuation différente. Et je me suis souvenu de ça, et c'est ça qui a lancé la composition de ce livre. Je me suis dit, je vais faire 5 chapitres avec des typographies et une façon de ponctuer différentes et des blancs différents entre les chapitres ou les paragraphes ou même les mots. Et c'est ça qui m'a permis de trouver la forme de ce livre très, très vite, comme ça, de façon comme un souvenir involontaire, en fait.
Parler de souvenirs. Et j'ai là, sous les yeux, un de ces livres qui constitue la bibliothèque, et en plus précédé d'une préface manuscrite, dédié à Édouard Champion, ce grand éditeur libraire de Tristan de Rey. Et dans ce livre, L'enlèvement sans clair de lune, ou les propos et les amours de M. Théodore de Lacandre, il écrit « Je me rappelle, il faisait un joli soleil matinal ». Ce que vous venez de me dire, c'est ça. Vous vous rappelez un joli soleil matinal, vous vous rappelez. Et dans ce rappel, qu'est-ce qui, puisque vous faites allusion au ressouvenir, qu'est-ce qui tout d'un coup devient l'écriture, ce que vous déposez sur un papier dans un instant et qui va peu à peu constituer ce gros bouquin, car ça s'appelle un gros bouquin, de près de 350 pages.
Alors ce qui a déclenché le besoin absolu de le composer presque définitivement, si je puis dire, c'est-à-dire au-delà des carnets de notes, c'est la fermeture des commerces essentiels avant le premier confinement. Comme je suis éditeur, le fait qu'on ferme les librairies, qu'on a considéré comme des commerces essentiels, ça m'a tellement bouleversé, paru dingue et puis mis en colère, que j'ai d'abord composé totalement le dernier gros chapitre, là, ce que j'appelle journal de confinement. Et
C'est ce journal d'un confinement qui est la dernière partie de votre livre, qui en réalité est une prétention à être un journal en continu, alors que les autres éléments, j'ai donné un numéro, sont des propositions qui peu à peu se sont constituées en somme.
oui. Donc, finalement, ce qui est composé en premier dans ce livre, et on peut pas s'en rendre compte en le lisant, c'est journal de confinement, écrit sans ponctuation, en continu, étant donné qu'il y a tellement d'informations qui arrivent de partout à l'époque que la seule façon d'en rendre compte, selon moi, c'est de ne pas ponctuer et de tout amalgamer comme ça, coller, compresser. En revanche, les autres chapitres, c'est vraiment du travail à partir de mes carnets, donc sur à peu près 5 années. Et là, c'est effectivement très fragmentaire, et c'est des souvenirs d'éblouissement, éblouissement de lecture, éblouissement de film, éblouissement de tableau, éblouissement de... Ben voilà.
C'est l'être avec la sensation ou l'être avec la pensée?
L'être avec la sensation, plus. Enfin, la pensée, elle est pas loin, mais la sensation et l'éblouissement, tout est vécu en fait dans ces fragments. Si je parle d'un tableau, c'est que je l'ai vu en vrai dans un musée. Si je parle d'un film, je l'ai vu en pellicule 35 mm ou 16 mm dans une cinémathèque. Et si je parle d'un livre, je l'ai vraiment ou une cite, si je cite quelque chose, je l'ai vraiment lu et vécu. C'est pas cherché sur Internet ou sur Google.
Mais en même temps, dans L'homme splendide, le 2000 romans, vous écrivez en première proposition, j'entre par la porte étroite. La porte étroite, évidemment, d'André Gide, a quelque part, comme on dit, n'est-ce pas, modelé ma vie, vu ma génération. Qu'est-ce que cette porte étroite pour vous? J'entre
C'est
par la porte
la
étroite.
difficulté, dans le
Et
sens
vous ajoutez
où...
aux deux, qui entre ici me fera honneur, qui n'entre point me fera plaisir.
Ah, ça, c'est une provocation.
Évidemment.
Mais la première proposition, parce que je sais très bien que je vais au-devant de difficultés avec ce type de livre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir un rejet de ce genre d'écriture, parce que il y a aucune linéarité.
J'entends bien. Cette semaine, j'assistais à une conférence de mon ami Jean-Louis Poitevin sur les Bacchantes de Ripide et sa thèse est tout simplement que les dieux n'existent que pour assurer la relation, le lien entre la continuité et la discontinuité de la réflexion et de l'histoire humaine. Alors, ce livre-là est un symbole de continuité, discontinuité, où le dieu est qui? Qui est votre dieu? Ah, j'aime bien devant le micro interroger mon vis-à-vis en lui créant du silence.
Alors, ce livre, au départ, avant qu'il y ait le confinement et ce journal de confinement, mon carnet de notes, il s'appelait Nouvelle Histoire du Monde. C'était une réponse à cet auteur très prétentieux, j'ai noté son nom pour pas
Oui.
l'écorcher, c'est Yuval Noah Harari qui a écrit des best-sellers absolus qui sont lus par toute l'oligarchie mondiale, Homo sapiens et Homo Deus. Alors, c'est des faux livres scientifiques qui sont complètement scientistes et il évacue toute transcendance et tout devient statistique, etc. Et j'ai trouvé que c'était tellement fumeux, c'est son type d'écriture, de pensée, que j'ai voulu écrire une nouvelle histoire du monde contre lui au début, avant que ça devienne histoire splendide. C'est pour ça que je commence par la Bible, l'Ancien Testament, et
Oui.
le Dieu, c'est le Dieu monothéiste qui permet la naissance de l'individu et la sortie d'esclavage. Donc c'est le Dieu monothéiste, et je crois que je fais un bel hommage à l'Ancien et au Nouveau Testament dans ce livre.
Vous écrivez à la proposition 107, les mouvements historiques résultent du transfert accepté de la somme des volontés des masses sur certains personnages historiques ou héros. Et c'est le rapport entre celui qui commande et ceux qui sont commandés qui constitue l'essence de la notion appelée pouvoir. Et voilà pourquoi l'histoire devient un mouvement différentiel en soi. Telle est la principale découverte de l'immense Léon Tolstoï dans Guerre et paix. En fait, vous croyez que un tel livre peut donner quelques clés au fond, quand vous le relisez, parce que j'ai lu votre communiqué de presse qui semble être une volonté de faire de ce livre une unité. Alors, c'est vrai que nous sommes un dans ce que nous faisons, quel que soit l'apparent chaos de nos productions. Quand vous vous regardez dans le miroir de cette œuvre, n'oubliez pas que nous sommes ici dans une émission de poésie. Quelle en est la poétique?
Il se trouve que je suis en train de me relire, j'ai dépassé la moitié, et
Expérience passionnante.
ce qui me surprend, c'est la somme d'audace que j'ai osé dans ce livre. Il y a plein de choses très audacieuses
Vous vous surprenez.
où je me surprends moi-même. Je me
Mais,
surprends de mon audace, en fait.
je vois que vous avez paginé. Lisez donc à ce micro. Nous sommes ici dans une libre conversation et c'est ça l'intérêt de cette émission. C'est que nous faisons plus que dialoguer. Enfin, dialoguer veut dire à plusieurs. Donc, il y a vous, il y a moi, il y a le livre, il y a notre technicienne Aline. Voilà. Et puis, nos auditeurs et auditrices. Alors, qu'est-ce que vous avez noté là en premier que vous pourriez nous distribuer, c'est-à-dire nous faire entendre au sens profond?
Alors, je lis un premier extrait du premier chapitre qui
Oui.
s'appelle Au commencement. Donc,
Oui.
c'est une méditation sur le
Oui.
sur la Bible, ce premier chapitre. J'ensorcelle les démons, je fais résonner ensemble des points d'ordre très divers, cosmiques, littéraires, musicaux, cinématographiques, philosophiques, technologiques, informatiques et même épidémiologiques. Ici, on abolit les frontières entre les différents arts. Clément Greenberg est renvoyé à ses chères études. L'ancien dialogue avec le nouveau comme jamais. C'est une stratification solide, un espace riemannien, crazy patchwork, une accumulation d'un ensemble de voisinages, un jardin aux sentiers qui bifurquent, une organisation nucléaire, une collection vivante de morceaux de texte juxtaposés dont le raccordement peut se faire d'une infinité de manières. C'est moi qui décide, je suis comme Dieu, qui nomme ses créatures. River run past Eve and Adams, un livre labyrinthe infini, tout y est mobile et interchangeable, calligraphie plutôt que gravure. Toutes les possibilités y sont adoptées, et toutes les langues et époques aussi. L'impureté considérée comme un des beaux-arts même. Torre des Babel, Torre des Belém, Tour Eiffel, Tower of London, Tour de Nesle, Torre de Pisa, Tour de Force. Connaissez-vous les labyrinthes de la littérature baroque portugaise? Le lecteur est l'opérateur du livre. Il met les majuscules et la ponctuation qui manquent encore lui-même. Ce volume est comme une sphère, un lieu circulaire avec de multiples portes. Le lecteur entre et sort quand il veut et où il peut. Voici la porte biblique. Yahvé me parle, je suis son serviteur. Après l'établissement de son programme atomique, chaque individu pourra se désintégrer sur place pour se réintégrer au lieu de son choix et selon le principe du jeu de Go.
Vous vous souvenez du jour où vous avez déposé ce texte sur une page?
Ben, ça s'est fait sur plusieurs. Même la saisie informatique s'est faite sur 5 ans et demi. Donc, j'ai commencé à la fin de mon précédent, en fait. Le précédent s'appelle Livre de papier, qui était un hommage et un pastiche, si on veut, bien que l'expression pastiche soit plutôt péjorative. C'était un hommage à Paradis de Philippe Sollers et un défi littéraire, dans le sens où j'ai fait un livre entièrement non ponctué, sans majuscules, sans alinéa. C'était aussi en écho à la fin d'Ulysse.
Et quand vous lisez à l'instant, là, nous sommes en direct, quoi qu'en différé, mais nous sommes en direct dans notre conversation, quand vous lisez ce texte, vous l'expliquez, vous le faites entendre, je suis extrêmement intéressé à faire comprendre à nos auditeurs comment la poétique est à la fois une entente de type communion et en même temps une explicitation qui est aussi vaste que l'histoire est inexacte. Comment vous l'entendez, ce texte-là que vous venez de lire aujourd'hui? Et vous reprenez le livre dans vos mains. Et oui, non, mais. Et vous vous dites, est-ce que je me souviens de ce que je viens de lire?
Quand je me suis relu cette semaine et que j'ai lu ça, je ne me souvenais pas que j'avais écrit ça, par exemple. C'est tellement référencé, c'est tellement une somme d'histoires et de connaissances compressées qu'à chaque fois que je le relis, ça me surprend.
Par exemple,
Je sais même plus d'où ça vient, tout ce qu'il y a là. Ça...
cette citation, quand vous excitez à vous citer vous-même, vous excitez, vous incitez aussi, vous intériorisez, vous exprimez. Quel être reconnaissez-vous? Parce que finalement, à l'instant, avant cette émission, je discutais avec un ami de Rivage des Sirtes, de Julien Gracq, et effectivement, des écrivains comme Julien Gracq ont changé la littérature par une imagination naturalisée, en quelque sorte. Est-ce que vous vous reconnaîtriez dans cette invention que l'écriture nous propose? Votre écriture est une écriture automatique? À l'évidence,
non.
Elle n'est pas une écriture qui se pense avant, elle se pense pendant.
Oui, elle se pense pendant. Automatique, je ne sais pas. C'est des associations d'idées avec des réminiscences involontaires. Oui. Mais je crois que l'écriture automatique surréaliste, c'était un peu différent, non?
Je ne sais pas, mais vous m'avez beaucoup fait penser, et je l'ai cité ici à ce micro, au dictionnaire encyclopédique inachevé de Novalis. Voilà, vous essayez de comprendre le monde et vous lui donnez un certain nombre de définitions. Vous dites par exemple, au 659, il faut vomir le mal et pour cela d'abord se l'inoculer comme un vaccin. Il faut vomir l'empire du bien également. Qui a vomi à dîner et du vomi à l'écrit, il n'y a qu'un petit pas. Il y a évidemment une puissance et une violence. Et je reconnais dans tous vos écrits une violence rimbaldienne. Je pense que nous sommes tous les enfants de Rimbaud.
Oui.
Il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose là qui est terrible, puisque cet enfant de 20 ans nous a donné naissance.
C'est le plus grand poète de langue française.
Vous êtes d'accord,
oui. Ouais.
Ouais. Et j'ai un ami que je reçois souvent ici, Michel Arouimi, qui consacre littéralement sa vie à Rimbaud, qui en est complètement, je ne dirais pas esclave, mais presque référent, dépendant. Justement, vous, avant que nous n'écoutions la première plage de musique, comment êtes-vous venu? Et êtes-vous poète? Êtes-vous écrivain? Vous êtes dans votre vie pilote de ligne? Où êtes-vous dans la littérature?
Quand j'ai écrit mes deux livres les plus personnels, donc Livre de papier et L'histoire splendide, je me suis senti beaucoup plus poète que romancier tout de suite. Et donc j'essaie de faire œuvre poétique à ma façon.
On a donné de multiples définitions du poète. Quelle est la vôtre? À travers votre expérience, parce que c'est ça qui est intéressant. Sinon, évidemment, en théorie, il n'y a pas d'intérêt.
Le poète, il doit toucher au réel, à mon avis. Que ce soit en décrivant des plantes, des animaux, ou bien l'homme, ou les relations entre les hommes. Paradoxalement, je crois que le poète, il faut qu'il touche au réel.
Thank you. 17 mars 1944, la visite blanche. Tu traverses ma vie, quand j'y pense le moins, quand le jour est en moi une chaude imposture. Et touchant ton épaule habitée de soleil, je retrouve les jeux coupables de l'enfance. Ne dis pas d'où tu viens, quel églantier te porte, blanche toison du rêve, écharpe des matins. Mais soulève en dormant ma poitrine et les portes. Belle sera la cage où veilleront mes mains. Sans voix, je te comprends comme le feu, l'abeille. Tu es dans mes genoux, plus forte que le sang. Au fond des chambres nues, ton regard émerveille les hautes lampes qui dormaient depuis 100 ans. Ah, je t'appellerai du nom de la présente. Tu seras désirable et même dans le soir. Tes yeux sauront garder aux chattes les distances avec la mer qui pleut, des fleurs et le ciel noir. René Guicadou. Pourquoi René Guicadou? Parce que j'ai reçu des éditions Bruno Doucet, ou plus exactement, je ne les ai pas reçues, je les ai acquis. Le livre conjoint de René et puis d'Hélène. Mais évidemment, René est au-dessus de tout et cet hymne à l'amour si discret m'a paru très proche de vous, cher ami Guillaume Basquin. Comment arrivez-vous à parler d'amour sans jamais l'évoquer?
Vous aurez remarqué que dans ce livre, je parle de ma compagne, oui, et de mes enfants, mais qui est une façon de leur rendre l'amour qu'elles m'ont apporté. Mais c'est très discret, c'est très des toutes petites notations.
Ce ne sont jamais des hymnes. D'ailleurs, vous n'êtes pas hymnique.
Non.
Non, non, vous êtes indicique. C'est un mot que j'invente. Comprendra qui veut. Mais quand vous entendez ce texte-là que je viens de dire aussi sobrement que possible, qu'est-ce qu'il vous suggère? Qu'est-ce que la lecture de l'autre, du poète René Guicadou, mais nous faisions allusion, et plus qu'allusion, nous citions Arthur Rimbaud. Comment, je pense que nous, poètes, nous naissons des poètes, et que vous êtes nés poètes, et que je voudrais que mes amis auditeurs, nos amis qui nous écoutent en ce moment, se disent que la poésie n'est pas une forme poétique, elle est un être poétique. Alors, êtes-vous un être poétique ?
Oui, je crois l'être, et Arthur Rimbaud, il a poussé tellement loin la langue française que c'est très difficile de rentrer en compétition avec lui. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est la position de Lautréamont. C'est celle-là,
dites-en plus.
Celle à partir de laquelle je suis parti, c'est-à-dire que la poésie doit être faite par tous. Et ça a été peut-être faussement compris comme quelque chose de démocratique par certains. Et en réalité, faite par tous, c'est-à-dire qu'on peut tout citer et tout détourner. Lautréamont, dans les poésies 1 et 2, il a tout détourné et en citant. Enfin, en ne citant pas, en fait. Mais l'histoire splendide, c'est ça. Je m'approprie tout, je cite tout, mais en le compressant et en le détournant. Et il me semble que cette position de Lautréamont, elle permet d'avancer dans la modernité poétique pour beaucoup de poètes, en tout cas pour moi. Très important, Lautréamont. Quand j'ai présenté ce livre, j'ai fait une petite blague improvisée, mais elle m'a semblé assez juste. J'ai dit, ce livre, c'est moi qui le signe, mais n'importe qui pourrait le signer. Et après, j'ajoute, par exemple, Lautréamont. Alors, c'est une provocation, mais je l'assume. Alors, je ne sais pas si tout le monde dans cette salle-là comprenait ce que ça voulait dire, mais au moins quelques-uns.
Est-ce que le commentaire est un comme mon enfer?
Le commentaire
est un comme mon enfer. Vous êtes plus un comme mon enfer qu'un comme mon ciel.
Oui.
N'est-ce pas? Et vous dites, à la proposition 749, et là je rejoins le monde actuel, un monde essentiellement numérique serait un monde essentiellement absurde. Mettons que l'on estime la valeur d'un film que d'après la quantité d'éléments susceptibles d'être comptés, calculés, réduits en algorithmes. Pareille estimation scientifique du cinéma, combien absurde ne serait-elle pas? Qu'en aurait-on retenu, compris, reconnu? Rien, strictement rien de ce qui constitue en fait l'essence du cinématographe, son ontologie, être une trace de l'énergie lumineuse du monde. C'est pourtant ce qui est arrivé. Et très souvent, vous remplacez l'essence par l'essence. Justement, à l'occasion de notre précédente conversation, avant la première plage musicale, au fait de qui la plage musicale que nous avons écoutée?
Arnold Schoenberg, Variation opus 31.
Pourquoi avez-vous choisi ce texte qui est d'ailleurs cité dans votre livre?
À cause de sa modernité et puis de sa dodécaphonisme et le fait que ça sonne très chaotique à l'oreille, que mon livre est très chaotique, ça m'a
Justement, chers amis
interpellé.
auditeurs, d'ordinaire, vous avez affaire, à travers nos émissions, à des livres qui ont une sorte d'ordre, des successions de textes, des mises en place d'un espace-temps qui est celui de l'écrivain après coup, parce que les livres, c'est toujours un après coup, et pas un pendant le coup. Sinon, là, il n'y a pas de livre, il y a peut-être un des livres, ou un otage. Comprennent qui pourra. Mais il se trouve que justement, peut-être pour la première fois à ce micro, je vous présente un chaos. Le titre d'ailleurs, l'histoire splendide. Tout à l'heure, vous souhaitiez que nous nous y attardions. Pourquoi l'histoire splendide?
Alors, c'est un titre abandonné par Rimbaud. C'était un projet qu'il avait à la fin de sa vie quand il avait abandonné la poésie en vers et de composer une sorte d'encyclopédie. Et comme il lisait très bien l'anglais, puisqu'il avait été à Londres, je crois plusieurs fois, enfin en tout
Oui,
cas au
oui, oui,
moins une
oui.
fois, il avait l'idée d'en écrire des parties en anglais, de le faire traduire en anglais. Et il s'intéressait beaucoup aux techniques de son temps, photographie, enregistrement, etc. Et ça correspondait à l'époque où il était déjà parti en Arabie vendre des armes et il aurait voulu faire des reportages aussi en photographiant l'Arabie, ce que personne connaissait, photographier en Europe et en France. Et il n'a pas eu le temps de mener ça à bien. J'ai appris ça dans l'avant-dernier livre de Philippe Sollers, Désir, et j'ai tout de suite sauté sur le titre. Et c'était pour moi dans le sens où dans ce livre, il y a une volonté encyclopédique de ramasser 40 siècles d'histoire. Et j'aime aussi raconter ça. D'ailleurs, c'est un des fragments que du haut de ce livre, 40 siècles vous contemplent. Et en plus, j'ai aussi
Je dirais du fond de ce
du
livre. Mais
fond,
bon,
oui.
voilà, chacun sa définition, oui.
Et puis j'ai beaucoup utilisé l'anglais, comme vous avez vu,
Oui.
en le citant dans la langue, parce que les passages qui sont cités sont tellement beaux. Alors c'est
Oui, parce que je voyais,
Melville.
puisque je suis quasiment, non pas de fondation dans cette radio, mais quasiment contemporain de sa fondation, le fondateur voulait absolument rendre hommage à la langue française. C'est une des vocations de Radio Courtoisie. Mais en réalité, je considère, moi j'ai été élevé en plusieurs langues et j'ai lu Joyce et Finnegan's Wake extrêmement tôt et j'ai une grande passion pour l'anglais, comme pour le français, comme pour le latin, comme pour le grec, comme toutes les langues que j'ai pu aborder, parce que la langue c'est l'absolu et que l'anglais n'est pas celui que l'on caricature aujourd'hui, je vous comprends. Et justement, puisque vous faites cette allusion, je voudrais lire le passage 953, où vous dites, en 1922, dans sa résidence d'été de Lake George, État de New York, le photographe Alfred Stieglitz commence une série abstraite en photographiant le ciel, uniquement des nuages, qu'il nomme d'abord Songs of the Sky, puis Equivalents. Il réalise cette découpe dans la continuité infinie de ciel nuageux, avec une chambre Graflex pointée vers le firmament, privée de toute référence à la Terre. Ces images verticales, mais pouvant être lues dans n'importe quel sens, ne proposent ni orientation, ni ancrage dans l'espace. Comme ce volume même, je crois que là vous donnez une définition exacte de ce livre extraordinaire que je conseille à tous nos auditeurs de consulter parce que ils vont découvrir l'équivalent d'un littré, sauf que c'est un littré littéraire, si j'ose dire. Chacun, je continue à vous lire, de ces équivalents devient de la sorte une sorte d'équivalent à l'effort abstrait alors en cours dans la peinture internationale et ancre l'artiste dans la modernité en photographie. La définition de nuage dans le littré n'est pas mal non plus. amas de vapeurs vésiculaires suspendues dans l'air, qui troublent le bleu du ciel sous forme de masses blanches, grises ou noires. Cela inspira aussi Baudelaire. J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Ah, c'est tout pour notre fragment nuageux. Et vous dites pas ah, je dis et vous dites eh, mais et c'est tout. Moi je dis ah parce que je dis ah au lieu de eh. Mais en fait, il y a dans ce texte-là la totalité de tout le passage de la littérature à la modernité, ouais. N'est-ce pas?
Et
alors, ayant écrit ça. Sans vous en rendre compte, parce que vous avez écrit tout ça sans vous en rendre compte.
Ben oui, parce que là, je viens de relire en même temps que vous et j'avais oublié qu'il y avait, que ce fragment était aussi long. Je sais que j'ai fait quelque chose sur les équivalents de Stiglitz, mais j'avais oublié que c'était si détaillé et si long, parce que je n'ai pas encore relu jusque-là.
Et donc, quand vous contemplez, je dis bien quand vous contemplez, non pas lisez ce livre, je dirais que d'une certaine façon, vous regardez cette culture qui vous a... peu à peu construit,
oui.
Alors que même, et vous venez de l'avouer, comme moi, comme tout le monde, vous l'oubliez chaque jour.
Oui.
Donc, nous avons là un livre qui constitue ce que nous devenons, une sorte de falaise. Moi, j'aime beaucoup cette image de l'histoire comme une falaise, des strates qui accumulent, et puis à la fin, il y a une hauteur recouverte d'herbes que l'on croit de crème et qui contient bien d'autres choses. Au fond, vous écrivez à la craie du temps, qui est le vôtre, au fil de quelle fantaisie? Quand vous écrivez cela, vous êtes en avion, vous êtes chez vous, vous êtes assis dans l'herbe, vous êtes à quel endroit du monde de votre vie?
Quand j'écris ce passage-là, je ne sais pas, je ne sais plus où je suis. Là.
Vous êtes perdu. Est-ce que cette émission vous permet de vous reperdre et de vous retrouver?
Ça permet de me retrouver, oui. Et comme je me retrouve, je me perds, puisque je ne me souvenais plus que j'avais écrit ça, par exemple. Ce que je peux dire par rapport au moment de notation, c'est assez souvent sur l'île de Ré, sur les digues qui sont en pente, où on peut bien s'adosser pour bien écrire et bien lire. C'est très souvent là que je note dans des carnets, mais ça peut être dans le métro à New York, dans un café à New York, des endroits qui m'excitent.
Mais toujours lié à quelque chose qu'on n'appellerait pas votre solitude, mais même pas votre face-à-face. Comment pourrait-on définir ce moment où l'écriture surgit?
L'excitation, je dirais. L'excitation,
vous êtes excité.
Oui. L'excitation intellectuelle ou des sens. C'est-à-dire que quand on est sur la plage à l'île de Ré avec les mouettes, l'iode, le vent, le soleil, ça m'excite beaucoup. Mais le métro de New York m'excite beaucoup aussi. Et c'est pas le bureau, c'est très rarement le bureau ou la chambre, très rarement. Sauf justement le journal de confinement, puisque là on pouvait plus sortir. Et là il y a à peu près 70 pages, là c'est écrit effectivement au bureau. Mais c'est un contre-exemple.
J'entends bien. Et ce moment où nous retrouvons la musique est celui qui va nous permettre de nous retrouver avec nos auditeurs.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. À Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen. À Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la. Tout de même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Je recevais l'autre jour, alors qu'aujourd'hui, c'est évidemment un autre hôte que je reçois, Guillaume Pasquin, je recevais de Territoire du Poème, qui se réunit régulièrement au Café de la Mairie, place Saint-Sulpice, une invitation à une soirée poétique au cours de laquelle il évoquait un livre sur lequel Noël Châtelet écrit, gravé, puisqu'il est à propos de la graveuse Hélène Lafly, ce geste fondamental du début de l'humanité. On dirait, écrit-elle, que Hélène Lafly cherche à le retrouver quand elle s'empare de sa propre matière. C'est bien ce que vous avez fait, cher ami. Cher Guillaume, vous vous êtes emparé de votre propre matière.
Oui. Propre matière, ma propre vie, ma propre descendance. Et j'ai composé un chant qui, pour me souvenir de tout ça, ou pour que mes enfants, un jour... se souviennent de moi à travers ce que j'aurais écrit, c'est-à-dire pensé ou senti.
Vous écrivez au 758, puisque c'est la numérotation de vos strophes, « Nous autres qui sommes nouveaux, sans nom, difficiles à comprendre, nous autres, prémices d'un avenir encore incertain, nous avons besoin pour un nouveau combat d'un moyen également nouveau, le plagiat généralisé. » Plus téméraire et plus joyeux que ne fut tout plagiat jusqu'alors. Tout est pour ainsi dire entre guillemets. Vous allez me commenter ça. Entre guillemets. Qu'est-ce que signifie l'entre guillemets? Moi, je suis très souvent entre parenthèses, mais je ne suis pas entre guillemets.
Ah, j'aime bien les parenthèses aussi. Et alors là, le début du fragment, c'est Nietzsche. Ça, c'est sûr. Et... quand on en arrive au plagiat et tout est pour ainsi dire entre guillemets, je ne suis pas sûr que ce soit lui.
Non, ça ne peut pas l'être. Enfin,
non, je ne pense pas.
Je crois le bien connaître. Non. C'est vous qui parlez à ce moment-là.
C'est
vous
qui reprenez la parole. C'est moi qui parle. C'est-à-dire que Roland Barthes a beaucoup parlé de ça dans Fragments d'un discours amoureux, que mettre des guillemets alors qu'il citait toute l'histoire de la littérature amoureuse, ça aurait été très lourd. Et donc, on n'a plus besoin de guillemets. Enfin non, on se passe des guillemets parce que les guillemets, c'est trop lourd. Mais effectivement, quand je dis tout, pour ainsi dire, est entre guillemets, c'est-à-dire que les trois quarts des choses, ce sont des citations ou des citations détournées. Donc on pourrait mettre un guillemet au début du livre, puis un à la fin du livre. Et en même temps, non, parce que j'interviens dans chaque fragment. Dans chaque fragment, c'est moi qui interviens et qui parle. Et d'ailleurs, le premier chapitre, au commencement, je le termine par un simple guillemet fermant. Dans le sens où, pareil, le premier chapitre, il est fait de citations compressées et on pourrait mettre un guillemet au début et un à la fin.
Dans un livre que m'envoyait Frédéric Andreux, édition Alcudia, mes droits d'auteur avec un H avant auteur, un légendaire poétique pour des temps sombres et mécaniques, il y a interpellé un poème, l'origine de ma légende, Tes yeux finissent en amande, mais où donc ont-ils commencé? Là où commence ma légende? Là où vont les oiseaux des Andes? Là, oh, où tout a commencé? Vivre ensemble, tu portais la robe du temps aux abeilles brodées dessus. Je m'en souviens, t'en souviens tant, car mon âme l'a toujours su. La fée des lilas, ma marraine, a-t-elle tout manigancé? Elle fit de toi l'unique reine des quatre que j'ai vu danser sur un ancien air de Tzigan. Nos âmes enfin se reconnaissent. La vie fait tomber nos peaux d'âne lorsque nos fées tiennent promesse. Quelles promesses ont tenues vos fées, cher Guillaume? Ce sont les faits de l'écriture, ce sont les faits de cette rencontre aujourd'hui entre vous et moi.
Les faits, la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est que... alors je crois que c'est André Breton qui a écrit à Philippe Solers pour lui dire « Les faits se sont penchés sur votre berceau ».
Oui.
Et les faits, F-E-E-S, bien sûr.
Bien sûr.
Et alors, moi dans ce livre, j'ai... la prétention de penser que ce sont les fêtes, F-A-I-T-S, qui se sont penchées sur mon berceau pour la partie politique du livre et la partie anti-terreur sanitaire du livre, qui est assez importante.
Dites-en un mot de cette anti-terreur sanitaire.
Alors, pour en dire un mot, j'ai choisi un passage du journal de confinement. Je le mets en perspective. Le philosophe théologien Fabrice Hadjadj a fait des conférences pendant le premier confinement entre la peste et le corona, et il a beaucoup, beaucoup monologué sur les grandes épidémies dans l'histoire de la pensée et de la littérature et de la Bible. Ça m'a énormément appris. Et il explique il m'apprend une chose que j'ignorais, c'est que dans la Bible, dans Samuel, quand on commence à compter les têtes d'Israël, des tribus d'Israël, alors Dieu envoie la peste, parce qu'il n'est pas content qu'on réduise l'homme à une statistique. Et je dirais qu'en mars, en mi-mars 2020, quand on a commencé à compter les morts, donc c'est Jérôme Salomon à la télévision, tous les jours, en les additionnant comme ça, jour après jour, sans les mettre en perspective, on a eu la peste, mais politique pour le coup, parce que... on a vécu 2 ans, là c'est en train de se calmer, mais 2 ans de peste politique avec que des mesures anticonstitutionnelles, le droit bafoué partout, sauf dans quelques pays. Et donc je vais lire un passage de ce journal de confinement qui parle de ça. C'est le 1er avril 2020 que j'écris ça. Après je le recompose, mais la première notation, 1er avril 2020. Fabrice Hadjadj vient de poster la troisième partie de son cycle de conférences « Entre la peste et le corona, l'épidémie des chiffres, David et Covid ». Il nous rappelle que dans le livre de Samuel, le roi David demande qu'on dénombre la population dans une logique de contrôle et de gestion des risques. Samuel 2,24. Procédez au recensement d'Israël et de Juda. Visitez toutes les tribus d'Israël. Recensez les gens, que je sache combien ils sont. Juste après ce comptage, 800 000 guerriers pour Israël, 500 000 pour Juda. Les 12 tribus d'Israël sont frappées d'un grand fléau, la peste. C'est une punition divine pour avoir considéré ces créatures d'une seule façon statistique. David est puni d'avoir réduit son peuple à des chiffres manipulables. Mais Seigneur roi, pourquoi veux-tu une chose pareille? Oui, j'ai beaucoup péché en faisant cela, j'ai agi comme un fou. Yahvé envoie donc la paix sur Israël, de Dan à Beersheba pendant 3 jours. 70 000 hommes périssent, alors David décide de construire un autel à Yahvé afin de débarrasser les gens de ce fléau. David y offre des holocaustes et des sacrifices de paix, et Yahvé délivre Israël de ce fléau. La foi, mes amis, notre monde en manque cruellement. D'ailleurs, l'ironie du sort veut que maintenant, toute épidémie soit traitée par des dénombrements. Le monde antique et biblique est totalement renversé. Voici les bœufs pour l'Holocauste sacrifié. Sprechgesang, l'épidémie, c'est-à-dire le virus, qui est le médium numérique, soit une suite de chiffres, ravage la parole et la parole déchoue en peste. Hadjadj nous rappelle d'ailleurs qu'en hébreu, parole et peste s'écrivent de façon identique, D-B-R, ce qui donne après vocalisation Dabar ou Deber. comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Trasumanar significar per verba non si poiria. Let the drum strike. Comment ne pas voir aujourd'hui que nous sommes submergés par une avalanche de chiffres, nombre des malades, nombre des morts dans le monde et par pays, nombre des guéris, etc. Nous sommes face à une épidémie de chiffres, ce qui mesure cette montée de la vague de l'épidémie, c'est la vague des statistiques qui s'élève comme un tsunami noyant toute autre forme de réflexion. La parole est ravagée par la peste, c'est-à-dire le médium. La mort devient sans phrase. Nous étouffons, c'est l'asphyxie muette de toute parole. L'épidémie nous fait entrer dans cette folie du calcul des têtes comme l'on faisait du bétail. La parole est en pleine déchéance quand la prévision est pleine de chiffres. Rien en arabe. Il ne nous reste qu'une mort sans phrase, confinée. Getting a little bit mixed up here, a little pause. Reprise. À la prophylaxie chiffrée doit répondre notre asphyxie muette. Cette épidémie des chiffres vient obnubiler notre vision même de la maladie. Sait-on encore que pour arrêter la peste au temps de David, il fallut aux tribus d'Israël aller sur un terrain non encore dénombré, puisque celui d'un Jébusite, Aravna. C'est donc sur la terre d'un hors-calcul qu'en érigeant un temple à Yahvé, on arrêta la peste qui était le culte des nombres sur l'aire de terre hors-calcul. C'est là qu'on fut débarrassé du fléau de la peste. Dans la Torah, chaque être humain est identifié par sa famille, sa maison paternelle et son nom. N'est-ce pas Josué, fils de Noun ? Ce livre d'enseignement qui ne quitte pas ta bouche murmure le jour et la nuit pour agir selon tout ce qui y est inscrit. Je salue Fabrice Adjadj, né juif, autoproclamé athée et anarchiste avant que de se convertir au catholicisme, nouveau saint Paul. Sans lui, je n'aurais tout simplement jamais pu ni su écrire ce dernier non-paragraphe, qu'il soit loué dans les siècles. Amen.
Formidable.
C'est pas facile à lire parce que c'est non ponctué, mais j'ai trouvé le bon rythme.
Tu as réussi. Quand tu l'as écrit, quand tu le relis, tu l'as écrit d'un coup ?
Non, parce que c'est quand même très composé. Malgré l'apparence, quand on peut lire comme ça, c'est quand même très composé.
Ce matin, je lisais de Véronique Olmy dans La Croix. Il ne savait pas qu'il était enfant. Citation à propos d'un poème de Peter Handke. Peter Handke, que j'aime passionnément, écrit « Lorsque l'enfant était enfant », et je demande à tous nos auditeurs d'écouter ce passage. Il marchait les bras ballants. Il voulait que le ruisseau soit une rivière et la rivière un fleuve et que cette flaque d'eau soit la mer. Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Pour lui, tout avait une âme et toutes les âmes n'en faisaient qu'une. Et Véronique Olmy cite l'épître de Paul. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Or, si je consacre depuis plus de 20 ans ces émissions à la poésie, si je donne mon temps à la poésie, et par ailleurs à l'architecture et à l'histoire, c'est parce que je suis demeuré un enfant. Et toi, mon ami Guillaume ?
Ah oui, pareil. Quand j'entends enfant, si on est dans une émission littéraire ou artistique, je pense tout de suite à l'enfance de l'art. Et l'enfance de l'art, le cinématographe, pour moi. Et comme je crois que j'ai écrit ce livre, comme les Kinoch filmaient, les Kinoch soviétiques filmaient des fragments de réalité dans les kolkhozes, dans les ciné-trains, etc., dans les villes. Et puis ensuite, ils montaient tout ça et c'était un jeu. Et j'écris. Quand j'écris, c'est un jeu et l'enfance de l'art.
Et dans ta vie quotidienne, qu'est-ce qui demeure de l'enfant quand tu pilotes un avion ?
Chaque fois, c'est la première fois, finalement.
Chaque fois, c'est la première fois.
Même, ça semble très répétitif vu de l'extérieur, mais en fait, chaque fois, c'est la première fois puisque tout est différent. Les nuages ne sont pas à la même place, la météo n'est pas la même. L'endroit n'est pas le même, l'officier pilote de ligne à ma droite n'est pas le même.
Toi dont je vois le physique devant moi, tu ressembles à un petit prince. Et oui, c'est un compliment. Je suis un ami de la famille de Saint-Exupéry et de Consuelo et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a en toi du petit prince ?
Il s'est piqué plusieurs fois à des épines de rose.
C'est le moins qu'on en puisse dire. Et à la fin, l'épine a été terrible.
Et... je me suis piqué plusieurs fois, mais
Tu as failli toi aussi tomber?
Oui, et maintenant j'ai trouvé la bonne compagne qui m'a pas piqué, et du coup on s'entend bien.
Une femme pour toi est un terrain d'atterrissage ou d'envol?
Terrain d'atterrissage, ça fait un peu propriété privée.
Oui, absolument.
Terrain conquis.
Je te piège là.
Un terrain de vol alors. Fragment numéro 942 du chapitre 1000 romans. Finalement, et après moult réflexions, la réaction mondiale au nouveau coronavirus ressemble par beaucoup d'aspects, confinement et masque pour tous, à la campagne dite des quatre nuisibles, rats, mouches, moustiques et moineaux, de 1958 à 1962 en Chine, lorsque Mao décida la mise à mort de tous les oiseaux qui volaient dans le ciel de la République populaire de Chine, et cela parce que les oiseaux du ciel volaient les grains de blé, de maïs et de riz qui appartenaient aux hommes, verbatim. Nos camarades doivent tuer les oiseaux parce qu'ils sont des voleurs et personne ne vole impunément la nourriture des citoyens. Je dis bien, pas même les oiseaux du ciel n'ont le droit de voler le pain des hommes et des bêtes qui travaillent. Et si les oiseaux n'ont pas compris cela, eh bien on les tue tous, comme on tue les criminels. Tout camarade chinois a le droit de tuer l'oiseau qui ose se poser sur le sol de la République populaire pour voler des grains. Mais quand il n'y eut plus d'oiseaux en Chine pour manger les vers et les insectes, les criquets dévorèrent les récoltes et la terre de Chine ne produisit plus rien. Toutes les récoltes furent compromises et il y eut une grande famine et le pays de Chine devint désolation et ruine. 30 millions de morts de faim. Voilà ce qui arrive quand on voit les choses sous un seul angle. Le manque de pensée dialectique et les grands bonds en avant engendrent bien souvent des monstres et produisent le mal que l'on ne voulait pas faire.
Saint Jean de la Croix répond à Guillaume Basquin dans les Dits de Lumière et d'Amour qui ont introduit cette émission. Mieux vaut être accablé auprès du fort que soulagé auprès du faible. Quand tu es accablé, tu es auprès de Dieu qui est ta force, lequel se tient avec les affligés. Quand tu es soulagé, tu es auprès de toi-même, qui est ta propre faiblesse. Car c'est dans les épreuves de patience que la vertu et la force de l'âme grandissent et se confirment. Cher Guillaume Basquin, nous venons de vivre presque une heure ensemble. J'oserais dire ce que je demande à chacun de mes amis architectes quand je les fais passer devant mes jurys du geste d'or que je dirige. Qu'est-ce que ce chantier a modifié en vous? Qu'est-ce que cette expérience, cet entretien entre nous, Guillaume, a porté en vous, en toi, comme, je dirais, introduction à une vie différente, si possible? Puisque tu as redécouvert ton livre à travers nous.
Et oui, parce que pour me préparer, j'ai relu la moitié du livre, j'ai pas eu le temps de tout relire. Donc, d'une part, il y a la surprise de tout redécouvrir, et d'autre part, peut-être pouvoir passer à autre chose, du coup, en récapitulant ce livre.
Autrement dit, tu as, sinon passé le Rubicon, au moins, peut-être, passer le Jourdain.
Voilà.
Alors, tu ne mourras pas avant, comme Moïse, mais je te souhaite longue vie, cher Guillaume. Longue vie entre nous et à nous revoir. Merci, à bientôt.
Merci Pascal.
Salut, ciao et vive la poésie!